Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et au verset 59, il est écrit, « Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. » Amen. Voilà, cet après-midi, j'aimerais donc m'arrêter avec vous sur ce passage des Écritures, de la parole de Dieu, la Bible, afin d'être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Un flagrant délit. Ce passage commence de cette manière. Une femme prise en flagrant délit d'adultère. La situation de cette femme est vraiment triste. Cette situation est terrible. Elle est vraiment dramatique. Je ne sais pas si on réalise la situation. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et elle est donc amenée par des hommes religieux, par des responsables religieux, au milieu du peuple, au milieu d'une foule qui se tenait devant Jésus. Et tout cela s'est passé dans le temple de Jérusalem. Ces choses-là se sont passées dans le temple de Jérusalem. Cette femme a été placée là au milieu de toutes ces personnes. Quelle humiliation, quelle honte pour cette femme. Aujourd'hui, plusieurs se moqueraient de cette situation, plusieurs pourraient rigoler sur une situation pareille. Si on racontait ce passage, ce que ces hommes ont fait à ce moment-là, si on le racontait à certaines personnes dans ce monde aujourd'hui, il y en a plusieurs qui diraient « mais où est le mal ? Qu'est-ce que cette femme a-t-elle vraiment fait de mal ? Laissez-la tranquille ! » Parce que aujourd'hui, dans ce monde, bien, l'adultère est considéré comme quelque chose de banal, de normal, comme même quelque chose de bon. Certains couples, certains psychologues, certains conseillers conjugaux encouragent des couples à justement avoir des relations comme ça, extra-conjugales, pour le bien-être de leur couple. C'est la réalité de ce qui se passe dans notre société. Et ce n'est pas étonnant si aujourd'hui on voit tant de couples, tant de divorces. C'est pas étonnant si aujourd'hui on voit tant de familles décomposées, recomposées. On ne sait plus comment les appeler, des familles brisées. Ce n'est pas étonnant parce que nous voyons que ce monde n'est pas à l'écoute de ce que Dieu dit. Ce monde est à l'opposé de la volonté de Dieu, de ce que Dieu nous dit dans sa parole. À l'égard, oui, des couples, à l'égard de notre vie de tous les jours, à l'égard des choix que l'on doit prendre. Et Dieu nous parle dans sa parole, justement afin qu'il y ait de véritables fondements et que nous puissions ici-bas faire les choses dans l'ordre pour notre bien, pour être les premiers à pouvoir en être heureux, à pouvoir en jouir, mais pour que jusque dans la vie éternelle, nous puissions être agréables à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est oui, que nous puissions bien bâtir notre vie et faire les bons choix ici-bas. Et quand on veut bâtir une maison, on ne fait pas n'importe comment, on commence pas par la charpente. Quand on veut bâtir une maison, on commence par les fondations. Il y a un ordre. Et dans notre vie, dans notre cœur, il doit y avoir un ordre qu'on doit suivre. Il doit y avoir ces règles divines qui nous donnent de faire les choses dans l'ordre. Quand on est à l'écoute de Dieu, on fait les choses dans l'ordre. Cet après-midi, sois à l'écoute de Dieu, justement pour faire les choses dans l'ordre et non pas dans le désordre, et afin que ta vie soit bâtie et non pas brisée, ne soit pas ruinée. Pour Dieu, l'adultère, c'est quelque chose de grave. Pour Dieu, l'adultère, c'est inacceptable, c'est condamnable. Dieu condamne l'adultère dans la Bible. Il est écrit, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu, ni les débauchés, ni les impudiques. Mais dans ce passage, plus qu'un flagrant délit d'adultère, ce qu'il y avait, c'était un adultère spirituel. Parce que ce que nous voyons dans ce passage, oui, ce sont des hommes, premièrement, qui ont cherché à amener cette femme aux pieds de Jésus pour mettre en lumière l'erreur de cette femme uniquement, et en même temps piéger Jésus pour essayer de trouver quelque chose pour l'accuser, parce que ces hommes étaient dérangés par Jésus. Jésus, nous l'avons lu, nous le dit encore à nous qui sommes là aujourd'hui, cet après-midi, « Je suis la lumière du monde, et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Parce que c'est ce que produit la lumière, elle produit la vie. Dans ce monde, si on enlève la lumière, il n'y a plus de vie. Jésus est la lumière du monde, et quand on le suit, il y a cette vie qui vient et qui remplit nos vies et nos cœurs. Et ces hommes religieux étaient donc dérangés par Jésus, parce qu'il amenait la lumière, et il amenait la lumière sur leur vie, sur leur cœur, et il dévoilait leur cœur, il dévoilait leurs erreurs, il dévoilait le péché qu'il y avait aussi dans leur vie, parce que c'est ce qui va se passer à ce moment-là. Étant donné que Jésus est la lumière du monde, il va éclairer tout le monde. Il va éclairer tout le monde. Cette femme va, oui, être éclairée sur sa situation. Et ces hommes religieux auraient aimé qu'il n'y ait que elle, mais dans ce passage, c'est tout le monde qui va être éclairé par la lumière de Dieu. Et ces hommes ne l'ont pas. Hein, ces hommes étaient dérangés par cela, par cette réalité, par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils cherchaient une occasion pour l'accuser, une occasion pour le condamner. Et donc dans ce passage, ce que je dis, c'est que nous voyons un adultère spirituel, parce que Jésus éclaire tout le monde et tous les cœurs à ce moment-là vont être repris. Voyons Jésus donner cette parole, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et à ce moment-là, aucune pierre ne va être lancée. Pourquoi ? Parce qu'ils vont tous admettre, ils vont tous accepter qu'ils sont pécheurs, que eux aussi, ils ont commis des erreurs devant Dieu, que eux aussi, ils ne sont pas justes aux yeux de Dieu, qu'il y a certains péchés dans leur vie qui sont condamnables aux yeux de Dieu, selon la loi divine. Vous savez, cette loi qu'ils connaissaient bien, ces hommes religieux connaissaient bien cette loi. Hein, et ils vont dire à Jésus, voilà, la loi nous dit de lapider de telle femme par rapport à ce péché, l'adultère. C'est vrai, c'est ce que dit la loi divine. Elle nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous voyons tous ces commandements que Dieu nous donne dans sa parole. Justement, tu ne commettras point d'adultère. Mais il y a aussi, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point. Et le premier des commandements de cette liste, c'est je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ces hommes-là commettaient un adultère spirituel dans le sens qu'ils n'étaient pas restés fidèles à Dieu dans leur cœur. Hein, ils s'étaient détournés de Dieu, ils s'étaient éloignés de lui et ils avaient laissé prendre des choses dans leur vie. Il y avait des choses dans leur cœur qui avaient pris place, qui étaient condamnables aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui mettait une séparation entre Dieu et eux. Et c'est ce qui amène encore aujourd'hui le problème dans cette humanité, le péché. C'est toujours le même problème. Le péché, c'est ce qui nous amène dans la misère. Le péché, c'est ce qui nous amène dans la ruine. C'est ce qui nous fait souffrir. Le péché, c'est ce qui nous amène dans la honte, dans la culpabilité. C'est ce qui nous amène loin de Dieu. C'est ce qui met, oui, cette séparation entre Dieu et nous. Et la Bible nous dit que nous avons tous péché. Parce que ce texte, aujourd'hui, est là pour nous. Si nous voyons ce passage, c'est pour nous aujourd'hui, cet après-midi, nous qui sommes là, qui entendons la parole de Dieu. Ces paroles nous concernent. Et Dieu nous parle au travers de ce passage pour nous donner de comprendre que, bien sûr, cette terre, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Que nous avons tous péché, que nous avons tous été pris en flagrant délit de péché devant Dieu. Parce que Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu connaît le fond de nos cœurs. Mais aujourd'hui, cet après-midi, que dit Jésus? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit maintenant, aujourd'hui? Hein? C'est ce que ces hommes ont voulu savoir. Toi donc, que dis-tu en venant vers Jésus? Ils ont voulu savoir qu'est-ce que Jésus-Christ allait dire d'une telle situation. Et donc Jésus, nous l'avons vu, a répondu que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Personne n'a jeté de pierre. Ils ont été tous d'accord pour accepter cette réalité. Et ils se sont tous retirés. Et par la suite, donc, Jésus est resté seul avec cette femme. Et quand il s'est retrouvé seul avec cette femme, il lui a posé ces deux questions. « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et la femme a répondu « Non, Seigneur ». Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Dans ce passage, il n'y en a qu'un qui aurait pu jeter la pierre. C'est Jésus lui-même. Il y en a un et un seul qui aurait pu condamner cette femme à la peine qu'elle méritait. C'est Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un qui aurait pu la condamner, l'accuser, mais il ne l'a pas fait. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Je ne te condamne pas non plus. Voilà la parole de Jésus-Christ pour cette femme, à ce moment-là. Mais cette parole nous concerne et nous montre la volonté de Dieu à notre égard, ce que Dieu veut pour chacun de nous. Parce que Dieu ne veut pas nous condamner, non, bien au contraire, il veut nous sauver. Et il a envoyé Jésus-Christ dans ce monde. Jésus-Christ est venu dans ce monde, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Parce que Dieu a tant aimé le monde. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas à cause du péché, mais qu'il ait la vie éternelle en se tournant vers Jésus-Christ et en l'acceptant. Oui, c'est ce que Dieu veut nous dire cet après-midi. C'est ce que Dieu veut nous donner de réaliser. Qu'il est venu, Dieu lui-même, Dieu lui-même est venu sur cette terre en la personne de Jésus-Christ. Dieu s'est incarné et il nous faut vraiment le réaliser et l'accepter. Ces hommes religieux étaient prêts à accepter, oui, et à admettre qu'ils étaient pécheurs. Ils se sont tous retirés, ils ont été tous repris dans leur conscience. Ils ont tous accepté qu'ils n'étaient pas justes aux yeux de Dieu. Mais nous avons vu à la fin de ce passage, ce dernier verset, le verset 59, où nous voyons ces hommes prendre des pierres et les jeter contre Jésus. Ces hommes n'ont pas voulu lapider cette femme qui était adultère, mais ils ont voulu lapider le Fils de Dieu qui était sans péché. Ils n'avaient aucune, aucune accusation valable contre Jésus, mais ils ont voulu, ils ont choisi de lui jeter des pierres pour le lapider, parce qu'ils cherchaient à le tuer, ils cherchaient à l'arrêter. Ils ne pouvaient pas accepter qui était Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas l'accepter. Ils n'acceptaient pas que Jésus-Christ annonçait qu'il était Dieu. Parce que c'est ce que Jésus-Christ va dire à ces hommes religieux à ce moment-là. Il leur dira, vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Et juste avant que ces hommes choisissent de vouloir lapider Jésus, c'est juste auparavant que Jésus-Christ va leur dire justement que, avec des termes que les Juifs étaient bien à même de comprendre, Jésus-Christ va leur donner de réaliser qu'il est Dieu. Il va utiliser le nom de Dieu pour les Juifs et va leur parler et leur donner de réaliser qui il était véritablement. Mais pour ces Juifs, c'était inconcevable que Dieu se soit fait homme, que Dieu soit venu en chair sur cette terre. Et pourtant, c'est ce que la Bible nous dit, pour venir nous secourir. Dieu a choisi lui-même de se faire homme et de venir comme un simple homme. De venir comme un serviteur, la Bible nous dit. Et Dieu n'est pas venu sur cette terre pour se faire servir, mais pour nous servir. Et c'est interpellant de voir Jésus à deux reprises se baisser dans ce passage. À deux reprises, nous le voyons se baisser pour écrire sur la terre. Et on ne sait pas exactement ce que cela signifie, et qu'est-ce que Jésus-Christ a écrit à ce moment-là, mais ça m'a interpellé. Et ça m'a fait penser à cette réalité que Jésus-Christ... Eh bien, la Bible nous dit qu'il viendra deux fois. Il est venu une première fois, il y a plus de 2000 ans sur cette terre. Et il a laissé un message. Il y a, oui, une écriture, un message qu'il nous laisse, qui a été écrit sur cette terre. Ce message, c'est un message d'amour pour chacun de nous. Nous avons chanté ce chant qui nous parlait de son infaillible amour, qui est là pour chacun de nous. Et c'est là la réalité. Cet après-midi, réalise l'amour de Dieu pour ta vie. L'amour de Dieu pour chacun de nous. Cet amour qui était là dans le cœur de Jésus pour cette femme à ce moment-là, mais cet amour qui était là aussi pour ces hommes religieux, cet amour qui est pour chacun. Le message que Jésus-Christ laisse de sa première venue, c'est un message d'amour, d'un immense amour, d'un amour incalculable, insondable. Le message que laisse Jésus-Christ, c'est un appel à venir à lui, un appel à venir à Dieu, un appel à revenir peut-être aussi, à revenir à Dieu. C'est là le message que Jésus-Christ laisse. Le message que Jésus-Christ a gravé sur la terre, c'est un appel à se repentir, à demander à Dieu pardon pour tous nos péchés. Pourquoi ? Parce qu'il a payé le prix de nos péchés. Parce qu'il est celui qui est venu pour nous donner le pardon de nos péchés. Voilà le message que Jésus-Christ laisse. Voilà ce qu'il a gravé en venant sur cette terre, à la croix. Et Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés. Et si Jésus-Christ a pu dire à cette femme, « Où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Si cette femme a pu répondre, « Non, Seigneur. » C'est parce que Jésus-Christ, oui, allait accomplir justement le grand sacrifice, le don de sa vie, afin que nous puissions être justifiés aux yeux de Dieu et ne pas être condamnés. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a pris sur lui notre condamnation. Jésus-Christ a pris à la croix sur lui nos péchés. Il a pris sur lui notre châtiment. Afin que nous puissions recevoir de Dieu, oui, le pardon de nos péchés, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle, et dès ici-bas, être restaurés, être comblés. C'est ce que nous voyons donc dans ce passage, et dans cette première venue, un message, oui, d'amour. Dans ce passage, ce que nous voyons, oui, c'est un flagrant délit d'adultère physique, spirituel, mais... Moi, ce qui m'interpelle le plus, et je crois que ce qu'il nous faut retenir cet après-midi pour chacun de nous, c'est ce flagrant amour. Ce flagrant amour, l'immense amour de Dieu pour chacun de nous personnellement. La Bible nous dit dans Romains 5:8, « Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous n'étions que pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu fait éclater son amour envers nous. Réalise cet après-midi la grâce de Dieu. Réalise cet appel et viens à lui. Parce qu'il est celui, oui, non, qui ne veut pas te condamner. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Par contre, après avoir répondu à cet appel, il y a cette indication. Va et ne pêche plus. Et je crois que pour terminer, c'est ce qu'il nous faut retenir. Parce que ça n'était pas « va et maintenant fais ce que tu veux, comme tu veux », ce qu'a dit Jésus. Mais il y avait une indication, une parole vraiment importante à retenir. Une direction pour la vie de cette femme. « Va et ne pêche plus ». Jésus-Christ a tout accompli, je le redis, à la croix pour nous donner le pardon de nos péchés, mais bien plus. Pour nous donner de pouvoir recevoir la vie de Dieu en nous, pour nous donner de pouvoir recevoir son esprit qui vient transformer nos vies, qui vient transformer nos cœurs et qui nous rend capables de ne plus pécher, qui nous rend capables de pouvoir obéir joyeusement à ses commandements, qui nous rend capables de marcher dans la sainteté, chose qui pour nous était impossible auparavant. C'est grâce à son sacrifice à la croix, c'est quand on l'accepte, quand on le reçoit dans nos vies, que l'on est libéré. Jésus-Christ est venu pour cela, pour ôter le péché du monde, pour ôter le péché de nos vies, de nos cœurs. Et c'est lui qui nous libère, c'est lui qui brise les liens, les chaînes du péché, qui nous retire de la boue du péché et qui nous amène dans cette vie de sainteté. Et il y a vraiment cette indication, va et ne pêche plus. Bien sûr que par la suite, tant que nous sommes ici-bas, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est important de l'accepter, c'est important de le dire aussi. Tant que nous sommes ici-bas, personne n'est parfait. Mais Dieu nous appelle, en tout cas, à ne pas, justement, sous prétexte que tant qu'on est ici-bas, nous ne sommes pas parfaits, de faire ce que l'on veut, comme on le veut. Il y a vraiment cette indication de marcher dans l'obéissance, de suivre la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Jésus-Christ. Va et ne pêche plus. Et c'est là l'indication que Jésus-Christ te donne à toi aussi cet après-midi. Il est celui qui te donne, oui, de pouvoir recevoir le pardon de tes péchés, mais bien plus, il est celui qui te donne de pouvoir résister au péché, de pouvoir résister aux tentations et de pouvoir être agréable à Dieu, de pouvoir marcher dans sa volonté qui est, oui, bonne, agréable et parfaite. Ces projets qui sont merveilleux pour chacun de nous, malgré nos erreurs passées, malgré toutes les erreurs que l'on a pu faire. Cette femme, oui, avait fait quelque chose de grave aux yeux de Dieu. Elle a commis cet adultère. Mais il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Il y a le péché. Et nous voyons toutes sortes de personnes dans la Bible qui ont commis certains péchés. Et on pourrait dire, certains pourraient avoir cette attitude, oui, de vouloir juger leur péché, enfin, de dire que c'était plus ou moins grave sur certaines situations. Mais quel que soit le péché, voyons que Dieu est celui qui donne le pardon quand le pécheur se repent. Cette femme a pu recevoir la grâce de Dieu. Nous voyons dans la Bible un autre homme, dans le psaume 51, qui lui avait commis lui aussi un adultère, mais même il était allé plus loin, il avait commis un meurtre, un crime. C'était là l'attitude de cet homme. Et nous voyons comment, eh bien, il va se tourner vers Dieu. Et va lui dire, va lui avouer, va avoir cette honnêteté d'admettre qu'il est pécheur. Et il va dire à Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je le rappelle, cet homme avait commis cet adultère, un adultère et un meurtre. Et il va reconnaître son péché devant Dieu et demander à ce que Dieu, eh bien, oui, le purifie, le lave, et à ce qu'il vienne, eh bien, créer en lui un cœur pur. Et c'est ce que Dieu va faire. Dieu va vraiment lui donner le pardon de ses péchés. C'est écrit dans la parole. Dieu lui pardonna. Dieu lui pardonna. Je vous dis cela pour vous dire que Jésus-Christ est celui qui est venu pour nous donner le pardon de tous nos péchés. Et il appartient à chacun de nous cet après-midi de saisir cela, vraiment de saisir sa grâce, saisir la solution. La Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et cet après-midi, c'est vraiment important d'admettre que l'on est pécheur, de se repentir, de le reconnaître comme ces hommes religieux qui ont été repris dans leur conscience, mais de ne pas se retirer. C'est l'erreur qu'ont fait ces hommes religieux. Ils se sont retirés. Ils ne sont pas restés auprès de Jésus. Cet après-midi, reste comme cette femme, seule devant Dieu, parce que Dieu te parle et il te parle à toi qui es là d'une manière personnelle. Et il est important donc de reconnaître que l'on est pécheur, mais il est important de reconnaître qui est Jésus-Christ véritablement. Dieu fait homme, de l'accepter, ce que ces hommes n'ont pas pu faire, accepte-le. Accepte son sacrifice par la foi. Humainement, avec notre propre intelligence, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais c'est là le message de la parole de Dieu. C'est là cette bonne nouvelle. Accepte-le par la foi. Place ta foi en Jésus-Christ. Et reçois. Reçois sa grâce. J'aimerais qu'on termine maintenant par la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes là cet après-midi devant toi. Et tu es là, présent au milieu de nous. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Toi qui es fidèle, Seigneur, tu n'as cessé jusqu'à présent de nous appeler de différentes manières à venir, à revenir à toi, pour saisir ta grâce, ton amour, pour marcher dans tes voies. Et Seigneur, nous avons été infidèles. Oui, nous avons commis cet adultère. Nous avons tous été pris en flagrant délit de péché. Mais tu n'as cessé de venir nous appeler. Parce que tu es ce Dieu lent à la colère, riche en bonté. Tu es ce Dieu qui est venu pour payer le prix de nos péchés. Encore cet après-midi, nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour tout ce que tu as accompli. Et Seigneur, dans ce lieu, tu vois, tu connais les cœurs. Seigneur, devant toi, rien ne t'est caché. Tu es ce Dieu qui veut encore cet après-midi accorder la grâce à quelqu'un, à plusieurs, de recevoir ta grâce, de recevoir le pardon, de recevoir la restauration, de recevoir une réponse, de recevoir vraiment ton secours. Je te prie, Seigneur, encore dans ces moments, afin, Seigneur, que les cœurs soient vraiment à l'écoute et réceptifs de ce que tu veux faire. Je te prie vraiment, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, sur tous ceux qui ont besoin de toi, afin qu'il y ait cette révélation dans les cœurs. Oui, cette révélation que nous sommes tous pécheurs, cette révélation profonde, mais cette révélation aussi que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu fait homme, que tu es Dieu qui est venu sur cette terre à la croix, payer le prix de nos péchés. Je te prie vraiment, Seigneur, d'éclairer les cœurs, parce que tu nous le dis dans ta parole, tu es la lumière du monde. Seigneur, merci d'éclairer dans ces moments, merci de nous éclairer. Amen.